Effect.
Mesdames, messieurs, bonjour, vous êtes sur 48FM, il est 9h13. Cette émission spéciale vous est présentée par Guillaume Delbecq et Matteo Agro.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale qui vous est proposée par Impact. Aujourd'hui sur 48FM, on vous raconte l'affaire de la vente de bois à Stoumont. Une enquête qui a connu de nombreux rebondissements entre faits avérés et manipulations. C'est en mobilisant leur esprit critique ainsi que leur sens de l'investigation que nos journalistes ont pu découvrir le poteau rose dans cette affaire. Une vente publique bancale, une source aux intérêts politiques à peine dissimulés et un dénouement pour le moins surprenant. C'est ce dont nos invités du jour sont venus nous parler, Matteo.
En effet, Guillaume, nous sommes actuellement accompagnés d'Emma Puma, Morgane Pérez-Lucena et Elodie Petitpas. Emma, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette enquête?
Le 5 novembre 2021, il y a eu une vente publique de bois de chauffage dans la commune de Stoumont. Et il faut savoir que Stoumont est une commune très boisée qui tire une grande partie de ses ressources financières de la vente de bois. Et elle organise au moins deux fois par an des ventes aux enchères dont le déroulement doit répondre à des règles très strictes. Et ce qui est interpellant ici, c'est que le fils du bourgmestre a remporté 9 lots sur 13, ce qui est quand même énorme. Et donc la question, c'était de savoir si la vente était arrangée ou pas. Et en fait, notre source soutenait que les prix de vente des lots étaient très bas. Il avait comparé les prix à ceux de vente similaires dans des communes voisines. Et pour lui, ces très bas prix signifiaient qu'il n'y avait pas eu d'enchères. Et donc ça représentait un grand manque à gagner pour la commune. La source affirmait aussi que la publicité n'avait pas été faite dans les délais parce que en fait, les ventes doivent être annoncées au moins 15 jours à l'avance. Et ici, la commune n'aurait posté une annonce Facebook que 2 jours avant la vente. Et en plus, certains bûcherons n'auraient pas été mis au courant, ce qui fait que les personnes qui étaient présentes à la vente seraient en fait toutes des proches du bourgmestre.
Elodie, comment avez-vous procédé pour élucider tout cela ?
Nous avons commencé notre enquête en nous renseignant sur la publicité qu'une vente de bois communale devait respecter. Nous avons découvert qu'il y avait toute une série de mesures qui devaient être prises 15 jours avant la vente pour assurer la publicité. Le but, c'est qu'un maximum de personnes en soient informées. Au début, on pensait que seule la publication Facebook, du coup, avait prévenu de la vente. Mais nous avons fini par retrouver ce à quoi ressemblait le site de la commune au moment des faits. Pour cela, nous avons utilisé Wayback Machine. C'est un site qui archive Internet. Et le catalogue de vente avait bien été posté sur le site dans les délais.
Et donc, les bûcherons ont-ils bien été prévenus ?
Nous avons rencontré le bourgmestre de Stoumont pour lui parler de la publicité.
Ceux qui ont emporté des marchés au cours des dernières années, on leur envoie systématiquement les cahiers de charges. Ouais.
Il semblerait cependant que les bûcherons n'aient pas été prévenus cette fois-là. En effet, à l'époque, un bûcheron publiait un commentaire sur le post Facebook de la commune. Et dans ce commentaire, il disait qu'il n'avait pas reçu le catalogue de vente. L'un des trois acheteurs est bûcheron lui aussi. Et lorsque nous l'avons contacté, il nous a confié avoir seulement appris la vente par un ami qui avait vu le post Facebook. Donc lui non plus, il n'avait pas reçu le catalogue de vente.
Et qu'en est-il des prix du bois ?
Nous avons comptabilisé le prix de vente de tous les lots. Et puis nous avons contacté plusieurs experts. Nous leur avons fourni les chiffres ainsi que les descriptifs des lots. Selon eux, les prix étaient légèrement avantageux, mais ce n'était pas anormal pour une vente de bois aux enchères. S'agissant de troncs d'arbres, ils devaient encore être abattus, coupés, transportés et puis séchés pendant 2 ans avant de pouvoir enfin être utilisés.
Du point de vue légal, qu'est-ce que cela raconte ?
Notre source, elle nous a mis la puce à l'oreille. Elle nous a transmis un message d'un membre de l'opposition. Ce message, il révélait que l'opposition avait été prise de court concernant la vente. Nous avons donc voulu savoir comment une vente de bois dans une commune était organisée. Et pour cela, nous avons contacté la directrice financière d'une autre commune.
Que le conseil communal va intervenir quand le DNF, donc la direction Nature et Forêt, va arrêter le catalogue de vente de bois. Donc, en principe, le conseil va valider les bois qui vont être vendus, aussi bien bois marchand, bois de chauffage. La grosse vente, généralement, c'est au mois d'octobre, en fait. Hein. C'est tous les mois au mois d'octobre où toutes les communes vendent leur bois. Donc, le conseil doit valider cette vente-là. Ensuite, le conseil n'intervient plus, parce qu'après, c'est le collège. Ensuite, à la vente, c'est le directeur financier qui va vérifier que les cautions sont exactes, etc. Il y aura le directeur général et les chefins ou le bourgmestre avec le DNF qui vont valider provisoirement la vente qui aura lieu ce jour-là. Et puis, c'est le collège communal qui va valider définitivement la vente de bois.
La ratification du conseil communal devait donc avoir lieu avant la vente. Nous avons cherché dans les PV du conseil communal précédant la vente, mais nous n'en avons trouvé aucun qui traitait de celle-ci.
Même si votre témoin a fait naître des doutes, vous avez croisé les sources et vous vous êtes aperçu que certaines informations qu'il vous avait transmises étaient erronées, Emma.
Les lots ont bien été vendus à des prix qui correspondaient à ceux du marché. 9 lots sur 13 ont bien été achetés par le fils du bourgmestre qui gère une société de bois. Mais en fait, il faut savoir que le bois de chauffage est réservé aux habitants de la commune dans beaucoup d'autres communes très boisées, alors qu'ici, la majorité des lots a été achetée par un professionnel. Et donc, on trouve ça discutable d'un point de vue moral. Mais le bourgmestre s'est défendu en rappelant que dans une vente publique, les lots allaient au plus offrant. Et pour lui, ça aurait été injuste de défavoriser son fils simplement parce que c'était son fils. En ce qui concerne la publicité, le post Facebook n'était bien qu'un rappel de la vente. Donc rien à dire à ce niveau-là. Et un des acheteurs nous a effectivement appris qu'il n'y avait que quelques personnes dans la salle, alors que d'habitude, de telles ventes réunissent une vingtaine de personnes. Mais par contre, les acheteurs n'ont pas de lien frappant avec le bourgmestre, mis à part son fils évidemment.
Cette vente respectait donc bien les conditions prévues par la loi ?
Oui, en fait, enfin, c'était pas vraiment. Elle est quand même un peu bancale parce que le conseil communal aurait dû ratifier la vente. C'est obligatoire, il doit le faire, alors que là, on n'en a pas trouvé la preuve. Et donc, on est arrivé à la conclusion que beaucoup d'arguments que la source avait avancés n'étaient pas vérifiés, n'étaient pas fiables. Et donc, pour nous, la vente n'a sûrement pas été truquée.
Dénouement que l'on peut qualifier d'inattendu, Morgane, après avoir découvert que votre source vous faisait marcher.
En effet, cette enquête était vraiment remplie de rebondissements. Et en tant que journaliste d'investigation débutant, on n'aurait jamais imaginé de confronter à ce type de cas pour une première expérience. Et en fait, devant nous, on avait une source qui se présentait comme un citoyen soucieux de l'intérêt de ses autres concitoyens et qui nous assurait qu'il y avait vraiment un climat de terreur qui régnait dans la commune.
Plusieurs forestiers, oui, absolument, dont je dois taire les noms, parce qu'ils ont tous peur de perdre les prochaines ventes. Il y a quand même le système de la peur qui est omniprésent. Moi-même, j'ai reçu pas mal de menaces écrites avec des noms. Ils étaient agressés à la maison, tout ça est filmé.
Et voilà, nous pensions avoir rencontré un père de famille, soucieux de l'intérêt des autres et qui était en lutte contre la corruption.
Je suis un citoyen lambda, sans aucune carte politique, sans aucune affiliation.
Mais en réalité, ces ambitions politiques, elles sont moins neutres qu'il n'y paraît. Avez-vous l'intention de vous présenter aux élections communales de Stoumont en 2024 ?
Absolument, c'est mon job. C'est la continuité des choses par rapport aux différents dossiers que nous avons découverts.
Comment a-t-il fait pour vous convaincre ?
Son dossier, il vendait du rêve. Il nous propose des documents que la Commission d'accès aux documents administratifs, donc la CADA, lui a contraint la commune à lui fournir en vertu de l'article 32 de la Constitution. Et alors, quand on l'ouvre à premier abord, on pense que tout y est. On a le nom des acheteurs, le descriptif des lots, la plainte à l'Office central de la répression de la corruption. Voilà.
Mais qu'est-ce que cela impliquait exactement ?
Ça impliquait que dès le départ, on se tirait une balle dans le pied parce que nous avons mené toutes nos recherches en ayant en tête la conviction que ces personnes avaient commis un acte illégal. Et alors, on a commencé à réfléchir de la même manière que notre source. Et dès qu'on voyait le moindre élément, la moindre preuve, le moindre commentaire Facebook, la moindre photo, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une preuve.
Finalement, comment avez-vous découvert la vérité ?
En réalité, notre ignorance sur le marché du bois n'a fait que renforcer nos croyances sur cette histoire. Et notre professeur nous répétait « ne soyez pas crédules les gars, ne rentrez pas dans sa tête ». Et ce n'est qu'après avoir vérifié nos informations deux fois, parfois trois, auprès de plusieurs spécialistes du domaine, qu'on a pu rectifier le tir. Et en fait, on avait vraiment l'impression de repartir à zéro. Nous nous sommes vraiment dit « mais quelle perte de temps ». Et lorsque nous avons interrogé les acheteurs, on a eu des réactions très sèches de leur part. On a remarqué que dans leurs réponses, il y avait pas mal d'émotionnel au niveau de cette source.
Donc, je ne vais pas répondre à vos questions. T'es étudiante en quoi, vous m'avez dit ?
Journalisme.
Journalisme, oui, oui. Non. Ce sujet-là, il y a une affaire en justice pour le moment. Donc, il y a eu une plainte contre le bourgmestre. Et moi, je suis appelée à témoin, donc je préfère attendre d'avoir d'abord témoigné.
Vous êtes libre, parce que par téléphone, je ne parle pas. Si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. Si le problème peut venir me trouver, c'est que lui, donc voilà.
Finalement, quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette expérience ?
Cette expérience, ça nous a permis de nous rappeler l'importance de l'esprit critique dans le métier de journaliste. Cette personne, elle a profité de notre empathie pour sa situation au profit de ses ambitions politiques, c'est très clair ici. Et en fait, on a été un peu manipulés et on a failli transmettre une fausse information. Et en fait, tout le dossier avec la plainte à l'ECRC, les documents qu'il a demandé à la CADA, il donnait vraiment un ton sérieux à cette enquête. Et au final, notre travail de fact-checking nous a permis d'empêcher le pire.
Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir à 18h sur la même fréquence pour un nouveau point sur l'actualité. Belle journée à tous. Impact.